Chapitre 51. Héritier.
En bref, si l'on veut présumer de l'innocence de Kazila, l'on se doit d'étudier les faits et les nier dans leur intégralité. Affirmer que les radieux ont failli à leur intégrité en exécutant l'un des leurs, qui avait manifestement fraternisé avec des éléments malsains. Témoigne d'un raisonnement paresseux à l'extrême, car l'influence sinistre de l'ennemi exigeait une constante vigilance. En temps de guerre, comme en temps de paix. Extrait du livre des radieux, chapitre 32, page 17.
Le lendemain, Adeline enfila ses bottes, les cheveux encore humides de son bain matinal. C'était incroyable la différence que pouvait faire un peu d'eau chaude et du temps de réflexion. Il avait pris deux décisions. Il n'allait pas s'inquiéter du comportement déroutant de son père lors des visions. Toutes ces choses-là, les visions, l'ordre de réformer les chevaliers radieux, la préparation pour une catastrophe qui surviendrait peut-être ou peut-être pas, allaient ensemble. Adeline avait déjà décidé de croire que son père n'était pas fou. Il était inutile de s'inquiéter davantage. L'autre décision risquait de lui attirer des ennuis. Il quitta ses appartements et entra dans le salon, où Dalinar était déjà en train de mettre des plans au point avec Navani, le général Kahl, Teshav et le capitaine Kaladine. Renarin gardait la porte en uniforme du pont 4, à la grande frustration de son frère. Malgré l'insistance d'Adeline, il avait refusé de renoncer à cette curieuse décision. « Nous allons de nouveau avoir besoin des hommes de pont », déclara Dalinar. « Si quelque chose tourne mal, nous aurons peut-être besoin de procéder à une retraite rapide. »« Je vais préparer les ponts 5 et 12 pour la journée, mon général », répondit Kaladine. « Ces deux équipes semblent nostalgiques de leurs ponts et parlent des courses au pont avec affection. » Mais n'était-ce pas des bains de sang ? « Si, clarissime, » reconnut Kaladine. « Mais les soldats sont des gens étranges. Les catastrophes les rassemblent. Ces hommes ne voudraient jamais revenir en arrière, mais ils s'identifient toujours comme des hommes de pont. » Non loin de là, le général Kahl hocha la tête avec l'air de comprendre, bien que Navani semble déconcerté. « Je vais prendre position ici, » annonça Dalinar en montrant une carte des plaines brisées. Nous pourrons commencer par explorer le plateau du rendez-vous pendant que je patienterai. Il semblerait qu'il présente de curieuses formations rocheuses.
Voilà qui me paraît une bonne idée, approuva le clarissime Teshav.
En effet, acquiesça Adeline en rejoignant le groupe. À un détail près, père, vous ne serez pas là.
Adeline, lui dit Dalinar d'une voix qui trahissait l'impatience. « Je sais que tu estimes que c'est trop dangereux, mais ça l'est effectivement, » insista Adeline. « L'assassin est toujours en liberté. Et la dernière fois, il nous a attaqués le jour même où le messager Parchendi est venu au camp. Et maintenant, nous allons rencontrer l'ennemi sur les plaines brisées. Père, vous ne pouvez pas y aller. »«
Il le faut, » insista Dalinar.
« Adeline, ça pourrait mettre fin à la guerre. » Ça pourrait nous fournir des réponses, nous permettre de comprendre pourquoi ils ont attaqué en premier lieu. Je refuse de renoncer à cette chance.
Nous n'allons pas y renoncer, expliqua Adeline. Simplement faire les choses un peu différemment.
Et comment ? S'enquit Dalinar.
Eh bien, pour commencer, répondit Adeline, c'est moi qui vais y aller à votre place.
Impossible, protesta Dalinar. « Je refuse de risquer la vie de mon fils pour... »«
Père !» aboya Adeline. « Il n'y a pas de protestation qui tienne !»
Le silence retomba dans la pièce. Dalinar baissa la main de la carte. Adeline serra la mâchoire et fixa son père droit dans les yeux. Nom des foudres, qu'il était difficile de refuser quoi que ce soit à Dalinar Colline. Le père d'Adeline était-il conscient de la présence qu'il dégageait ? De la façon dont il motivait les gens par la seule force de ses attentes. Personne ne le contredisait. Dalinar faisait ce qu'il voulait. Fort heureusement, ces jours-ci, ses motivations servaient un noble dessein. Mais, de bien des manières, il était le même homme que 20 ans plus tôt, lorsqu'il avait conquis un royaume. Il était l'épine noire,
et il obtenait ce qu'il voulait. Sauf aujourd'hui.
« Vous êtes trop important, » lui dit Adeline en le montrant du doigt.
« Osez nier ce point. Osez nier que vos visions sont capitales. Osez nier qu'Aledkar s'effondrera si vous mourrez. Que chacune des personnes présentes dans cette pièce est moins importante que vous. »
Dalinar prit une profonde inspiration, puis expira lentement.
« Ça ne devrait pas être le cas. Il faut que ce royaume soit assez fort pour survivre à la mort d'un seul homme, quel qu'il soit. »«
Eh bien, il n'en est pas encore là, » répondit Adeline. « Afin d'y parvenir, nous aurons besoin de vous, par conséquent. Vous allez devoir nous laisser prendre garde à vous. Je suis désolé, père. » Mais une fois de temps en temps, vous devez laisser les autres faire leur travail. Vous ne pouvez pas régler tous les problèmes avec vos seules mains.
Il a raison, mon général, intervint Kaladin. Vous ne devriez vraiment pas risquer votre vie sur ces plaines. Pas s'il existe une autre option.
Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait une, objecta Dalinar d'un ton glacial.
Aussi, répondit Adeline. Mais il va falloir que j'emprunte la cuirasse de Rhaenarin. »
Le plus étrange dans cette expérience, du point de vue d'Adeline, n'était pas de porter l'ancienne armure de son père. Malgré les différences de style extérieur, les cuirasses d'éclat s'ajustaient à leur porteur de manière similaire. L'armure s'adaptait, et peu de temps après qu'il l'avait enfilée, Adeline éprouvait exactement la même sensation qu'avec sa propre cuirasse. Il n'était pas étrange non plus de chevaucher à l'avant de l'armée avec la bannière de Dalinar claquant au-dessus de sa tête. Adeline menait seule ses hommes au combat depuis déjà 6 semaines. Non, le plus étrange était de monter le cheval de son père. Vaillant était une grande bête noire, plus massive et plus trapue que Sang Hardy, le cheval d'Adeline. Vaillant ressemblait à un cheval de guerre même en comparaison d'autres Richadiums. Pour autant qu'Adeline le sache, personne d'autre que Dalinar ne l'avait jamais monté. Les Richadiums étaient particulièrement difficiles. Il avait fallu de longues explications de Dalinar avant que le cheval accepte seulement de laisser Adeline tenir les rênes, sans parler de monter en selle. Ils avaient fini par y arriver, mais Adeline n'aurait pas osé monter Vaillant au combat. Il était persuadé que l'animal le désarçonnerait et s'enfuirait pour aller protéger Dalinar. C'était extrêmement curieux de monter un cheval qui ne soit pas Sang Hardy. Il s'attendait constamment à ce que Vaillant bouge différemment, tourne la tête au mauvais moment. Quand Adeline lui tapotait l'encolure, la crinière du cheval lui semblait anormale, d'une manière qu'il aurait été en peine d'expliquer. Son lien avec son Richadium allait au-delà de celui qui unit cheval et cavalier, et il se surprit à éprouver une étrange mélancolie à sortir chevaucher en l'absence de Sang Hardy.
Quelle bêtise! Il fallait qu'il reste concentré. La procession approcha du plateau du rendez-vous, qui comportait près du centre un grand monticule à la forme étrange. Ce plateau était proche du côté Aleti des plaines, mais situé bien plus au sud qu'Adeline n'était jamais descendue. Les hommes qui avaient patrouillé précédemment affirmaient que les démons des gouffres étaient plus fréquents dans cette région, mais ils n'y avaient jamais aperçu de chrysalide.
Une sorte de terrain de chasse, mais pas un endroit pour se transformer en chrysalide.
Les Parchendi n'étaient pas encore là. Quand les éclaireurs rapportèrent que le plateau était sécurisé, Adeline poussa Vaillant à franchir le pont mobile. Il se sentait au chaud dans sa cuirasse. Les saisons, semblait-il, avaient enfin décidé de sortir lentement du printemps et peut-être même d'approcher de l'été. Il approcha du monticule rocheux central, qui était effectivement très curieux. Adeline le contourna et remarqua alors sa forme, crénelée par endroits, presque comme...
C'est un démon des gouffres, comprit-il. Il passa devant le visage, un morceau de pierre creusée qui ressemblait de manière extrêmement troublante à la tête d'un démon des gouffres.
Une statue?
Non, c'était trop naturel. Un démon était mort ici des siècles auparavant, et au lieu d'avoir été emporté par les tempêtes, il s'était lentement recouvert d'une croûte de crémon.
Le résultat dégageait une impression d'inquiétante étrangeté. Le crémon avait répliqué les contours de la créature, s'accrochant à la carapace pour l'ensevelir. Ce corps massif évoquait une créature née de la roche, comme dans les anciens récits sur les néantifères. Adeline frissonna et détourna son cheval du cadavre de pierre en direction de l'autre côté du plateau. Peu après, il entendit les signaux d'alerte des éclaireurs. Les Parchendi arrivaient. Il s'arma de courage, prêt à invoquer sa lame d'éclat. Derrière lui se déployait un groupe d'hommes de pont, au nombre de 10, parmi lesquels se trouvait ce Parche. Le capitaine Kaladin était resté au camp de guerre avec Dalinar, au cas où. Adeline était le plus exposé. Une partie de lui souhaitait que l'assassin se présente aujourd'hui, afin qu'il puisse de nouveau se mesurer à lui. De tous les duels qu'il espérait livrer à l'avenir, celui-ci, contre l'homme qui avait tué son oncle, serait le plus important, plus encore que de vaincre Sadeas. L'assassin ne fit aucune apparition, tandis qu'un groupe de 200 Parchendi sautait gracieusement depuis le plateau voisin pour atterrir sur le plateau du rendez-vous. Les soldats d'Adeline s'animèrent dans un cliquetis d'armure, baissant leurs lances. Il y avait des années que les hommes et les Parchendi ne s'étaient rencontrés sans que le sang soit versé. « Bon, » dit Adeline dans son casque. « Allez chercher ma scribe. » Un palanquin transporta la clarissime Inadara à travers les rangs des soldats. Dalinar voulait garder Navani auprès de lui, officiellement pour bénéficier de ses conseils, mais sans doute également pour la protéger. « Allons-y !» lança Adeline en pressant Vaillant de se mettre en marche. Il traversa le plateau en la seule compagnie de la clarissime Inadara, qui s'était levée du palanquin pour marcher. C'était une matrone ratatinée aux cheveux gris, qu'elle coupait court par souci de simplicité. Il avait connu des brindilles plus charnues qu'elle, mais elle avait l'esprit vif, et c'était la scribe la plus fiable qu'il possédait. La porte-éclat Parchendi émergea des rangs et s'avança seule à grands pas sur les rochers. Insouciante, indifférente, celle-là ne manquait pas de confiance en elle. Adeline mit pied à terre et fit le reste du chemin à pied avec Inadara à ses côtés. Ils s'arrêtèrent à 2 mètres de la Parchendi, seuls tous les trois sur une étendue rocheuse, avec le démon des gouffres fossilisé qui les regardait fixement sur la gauche. « Je suis Eshonai, » déclara la Parchendi. « Me reconnaissez-vous ?»« Non, » répondit Adeline. Il s'obligeait à parler d'une voix plus grave pour tenter d'imiter celle de son père, espérant que ce serait suffisant, puisqu'il portait son casque, pour tromper cette femme qui ne pouvait pas connaître précisément la voix de Dalinar. « Je n'en suis pas surprise, » répliqua Eshonai. « J'étais jeune et insignifiante lors de notre première rencontre. Je méritais à peine qu'on se souvienne de moi. » Adeline s'était attendue à ce que la conversation des Parchendi soit plus chantante, d'après ce qu'il avait entendu raconter à leur sujet. Mais ce n'était absolument pas le cas. Le discours d'Eshonai possédait un certain rythme, avec sa façon de souligner les mots et de marquer des pauses. Elle changeait d'intonation, mais le résultat évoquait davantage une psalmodie qu'un chant. Inadara sortit une planche à écrire et un écocalam, puis se mit à noter les paroles d'Eshonai. « De quoi s'agit-il ? » l'interrogea celle-ci. « Je suis venu seul, comme vous me l'avez demandé, » répondit Adeline, s'efforçant de projeter la même impression d'autorité que son père. « Mais je compte bien consigner ce qui est dit et le transmettre à mes généraux. » Eshonai ne leva pas sa visière, ce qui fournit une bonne excuse à Adeline pour ne pas lever la sienne. Ils se regardaient fixement à travers leurs casques. Tout ça ne se déroulait pas aussi bien que son père ne l'avait espéré. Mais c'était à peu de choses près ce à quoi Adeline s'était attendue. « Nous sommes ici, » déclara-t-il, utilisant les mots par lesquels son père lui avait suggéré de commencer, « pour débattre des termes de la capitulation Parchendi. » Eshonai éclata de rire.
ce n'est pas du tout le but. »
Qu'est-ce donc, alors ? L'interrogea Adeline. « Vous sembliez tenir à me rencontrer. Pourquoi ?»«
Les choses ont changé depuis que j'ai parlé à votre fils, Épine Noire. Des choses importantes. »«
Lesquelles ?»«
Des choses que vous ne pouvez pas imaginer, » répliqua Echonaï.
Adeline patienta comme s'il réfléchissait, mais en réalité, il laissait à Inadara le temps de correspondre avec les camps de guerre. Inadara se pencha vers lui et lui chuchota ce que Navani et Dalinar avaient écrit qu'il devait répondre.
« Nous sommes là de cette guerre, Parchendi, » reprit Adeline. « Vos effectifs diminuent, nous le savons. Faisons une trêve qui nous profiterait à tous deux. »
« Nous ne sommes pas aussi faibles que vous le croyez, » répondit Echonaï. Adeline se surprit à froncer les sourcils. La dernière fois qu'elle lui avait parlé, elle avait semblé passionnée, accueillante. Elle se montrait à présent froide et hautaine. Était-ce normal ? C'était une Parchendi. Peut-être les émotions humaines ne s'appliquaient-elles pas à elle. Inadara chuchota quelques mots à Adeline.
« Que voulez-vous » demanda-t-il, répétant les mots envoyés par son père. « Comment peut-il y avoir la paix ?»«
La paix surviendra, Épine Noire, quand l'un de nous sera mort. Je suis venu parce que je voulais vous voir de mes propres yeux ainsi que vous mettre en garde. Nous venons de modifier les règles de ce conflit. Se chamailler pour des gemmes n'a désormais plus d'importance. »
Plus d'importance. Adeline sentit la sueur le baigner. Elle parle comme s'ils s'étaient joués de nous pendant tout ce temps. Pas du tout comme s'ils étaient désespérés. Se pouvait-il que les Alétis se soient à ce point trompés dans leur jugement? Elle se détourna pour repartir. Non. Tout ça pour que la réunion prenne fin comme dans un nuage de fumée? Bourrasque.
Attendez! S'écria Adeline en s'avançant. « Pourquoi ? Pourquoi vous comportez-vous ainsi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?»
Elle se retourna pour le regarder.
« Vous voulez vraiment mettre fin à tout ça ?»«
Oui, je vous en prie, je veux la paix, à n'importe quel prix. »«
Dans ce cas, vous allez devoir nous détruire. »«
Pourquoi ?» répéta Adeline. Pourquoi avez-vous tué Gavilar toutes ces années auparavant? Pourquoi trahir notre traité?
Le roi Gavilar, répondit Echonaï, comme si elle retournait ce nom dans sa tête. Il n'aurait pas dû nous dévoiler ses projets cette nuit-là. Pauvre idiot, il ne savait pas. Il fanfaronnait en croyant que nous allions nous réjouir du retour de nos dieux.
Elle secoua la tête, puis se détourna de nouveau et s'éloigna au petit trot dans un cliquetis d'armure. Adeline recula. Il se sentait inutile. Si son père avait été là, aurait-il été capable d'en faire davantage?
Inadara écrivait toujours pour transmettre l'échange à Dalinar.
La réponse de ce dernier arriva enfin. « Reviens au camp. Tu n'aurais rien pu faire et moi non plus. De toute évidence, elle a déjà pris sa décision. »
Adeline passa le trajet du retour à broyer du noir. Quand il atteignit enfin les camps de guerre quelques heures plus tard, il trouva son père en pleine conférence avec Navani, Kal, Teshav et les quatre chefs de bataillon de l'armée. Ensemble, ils parcouraient les propos retranscrits par Inadara. Un groupe de serviteurs parches leur apportait du vin et des fruits en silence. Teleb, vêtu de la cuirasse qu'Adeline avait remportée lors de son duel contre Eraniv, les observait depuis le côté de la pièce, marteau d'éclat dans le dos, visière relevée. Son peuple avait autrefois gouverné Aletkar. Que pensait-il de tout ça? En règle générale, il gardait ses opinions pour lui. Adeline entra dans la pièce d'un pas pesant et retira le casque de son père, enfin celui de Renarin.
« J'aurais dû vous laisser y aller, » déclara-t-il. « Ce n'était pas un piège.
peut-être auriez-vous réussi à lui faire entendre raison.
Nous parlons du peuple qui a assassiné mon frère, la nuit même où nous avons signé un traité avec lui,
répondit Dalinar tout en inspectant des cartes sur la table.
Il semblerait qu'il n'ait absolument pas changé depuis ce jour. Tu t'es magnifiquement débrouillé, mon fils. Nous savons tout ce dont nous avons besoin.
Ah bon ? Pensa Adoline en approchant de la table, casque sous le bras.
« Oui, » dit Dalinar en levant la tête. « Nous savons qu'ils n'accepteront pas la paix quoi qu'il advienne. Ma conscience est tranquille. »
Adoline parcourut du regard les cartes déployées. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il en remarquant les symboles de mouvement des troupes. Tous étaient orientés vers l'intérieur des plaines brisées.
« Un plan d'attaque, » répondit calmement Dalinar. « Les Parchendi ne veulent pas traiter avec nous, et ils préparent quelque chose d'important, quelque chose qui va transformer cette guerre. L'heure est venue de les combattre directement et de mettre fin à cette guerre, d'une manière ou d'une autre. »«
Père des tempêtes !» s'exclama Adoline. « Et si nous nous retrouvons cernés quand nous serons là-bas ?»«
Nous emmènerons tout le monde, » expliqua Dalinar, « notre armée entière. » Et tous les hauts princes qui souhaiteront se joindre à moi, ainsi que des spiricantes pour la nourriture. Les Parchendi ne seront pas en mesure de cerner une armée aussi grande, et même s'ils y parvenaient, ça n'aurait aucune importance, nous serions capables de leur résister.
Nous pourrons partir juste après la dernière tempête majeure qui précédera la saison des pluies, intervint Navani, tout en inscrivant des chiffres sur le côté de la carte. C'est une année des Lumières, et nous aurons donc des pluies régulières, mais pas de tempête majeure durant des semaines. Nous n'y serons pas exposés pendant que nous nous trouverons dans les plaines.
Mais ça signifiait également qu'ils se retrouveraient au beau milieu des plaines brisées, seuls, à quelques jours de la date griffonnée sur les murs et le sol.
Un frisson parcourut l'échine de Dalinar.
Nous devons les devancer, déclara Dalinar d'une voix douce en parcourant les cartes. « Interrompre ce qu'il manigance, quoi que ça puisse être, avant la fin du compte à rebours. »
Il leva les yeux vers Adoline.
« J'ai besoin que tu livres davantage de duels. Les combats les plus prestigieux possibles remportent des éclats pour moi, mon fils. »«
J'affronte Élite en duel demain, » répondit Adoline. « À partir de là, j'ai un plan pour ma cible suivante. »
« Parfait. Pour réussir dans les plaines, nous aurons besoin de porte-éclat et de la loyauté de tous les hauts princes qui accepteront de me suivre. Concentre tes duels sur les porte-éclats de la faction qui est fidèle à sa déesse et terrasse-les avec le plus grand tapage possible. Je vais aller trouver les hauts princes neutres pour leur rappeler leur serment d'accomplir le pacte de vengeance. » Si nous parvenons à prendre les éclats de ceux qui suivent Sadeas et à les utiliser pour mettre fin à la guerre, ça contribuera grandement à prouver ce que je dis depuis le début, que l'unité est le chemin vers la grandeur à Leti.
Adoline hocha la tête. « Ce sera chose faite, »